C'est le dimanche, jour du Seigneur, puis dans le tailgate week-end, c'est le jour de l'abbé Richard. Mon ami Richard, comment vas-tu?
Ça va très bien toi-même.
Écoute, ça va très bien, merci. Jour de match, on s'apprête à vivre une autre grande démonstration de c'est quoi une foule au Centre Bell ce soir, mon ami.
Ben écoute, si c'est pour être équivalent ou même semblable à ce que ça a été vendredi, je pense que ça va être très très bon. On parle souvent de l'avantage de la foule en série. Il y a des gens qui disent « Ah, ça veut rien dire à un moment donné, les joueurs, là, que tu joues là-bas, ici, à une autre place. Les joueurs sont crinqués, peu importe l'endroit. Les joueurs doivent performer, peu importe l'endroit, ce qui n'est pas faux. » Mais je pense que pour le Canadien de Montréal, on a oublié peut-être. C'est sûr que récemment, le Canadien n'a pas joué souvent des gros matchs de série au Centre Bell. Là, ça faisait un petit bout de temps. Puis la dernière fois, bien évidemment qu'on n'était pas du côté de Montréal. Là, on n'était pas à guichet fermé en 2021 à cause de la COVID. On avait oublié à quel point c'est un endroit qui devient intimidant. Puis pourquoi je voulais t'en parler un petit peu rapidement ce matin, c'est que il y a beaucoup de gens parmi les médias qui ont posé la question aux joueurs des Capitals au cours des derniers jours. Et souvent, je trouve que les joueurs des Capitals sont un petit peu agacés de devoir parler de ça. Ils veulent pas en parler ou ben non, ils vont balayer ça un petit peu du revers de la main. Mais je pense qu'on sent que ça les affecte une petite affaire. T'sais, encore une fois, c'est peu importe où tu dois jouer, le résultat il est pareil, l'effort doit être pareil, mais je sens que le public commence à les affecter. Puis on n'a pas aimé, il y a eu des commentaires un peu sur la réaction du public au moment de la blessure de Logan Thompson le vendredi soir.
Ouais.
Moi, d'où j'étais, Greg, j'ai comme perçu un mélange d'un paquet d'affaires. Il y a des gens qui ont dit « Ouais, ils ont-tu applaudi? » J'ai mal saisi un petit peu la réaction des gens d'où j'étais, tellement il y avait du bruit de manière disparate. Mais on sent chez les Capitals, ça commence un petit peu à leur jouer dans la tête. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point.
Mais c'est le cas de beaucoup d'équipes aussi, Richard, pour ajouter à ton point, tu sais. Combien de joueurs, toi, ça fait 25 ans que tu fais ça, là. Combien de joueurs des équipes adverses t'ont parlé du Centre Bell? Il y a des joueurs, je veux dire, des Québécois qui jouent ailleurs qui parlent du Centre Bell comme étant l'endroit où il y a la meilleure ambiance dans toute la ligue. À un moment donné, c'est sûr que ça vient te jouer dans la tête un peu. Il y avait une série, si je ne me trompe pas, c'était 2008. Le Centre Bell était tellement fort que ça avait été le titre, la page frontispice du Journal de Montréal. L'organisation des Bruins avait dit « On a eu peur ». Je veux dire, tu te souviens probablement de ça, là, de cette série-là. C'est pas d'hier, la veille, là, qu'on a ce type d'ambiance-là au Centre Bell. Tout le monde est d'accord avec ça, sauf 2-3 fans des Bruins de Boston, en quelque part, sur les médias sociaux. Là. Mais sinon, tout le monde est d'accord avec le fait. Il y en a des très, très belles ambiances dans la Ligue, des endroits intimidants. Winnipeg en série en est un, Nashville en est un, Chicago aussi, probablement. Je veux dire, tous les buildings sont forts. Mais comme le Centre Bell, il n'y en a pas. Puis c'est sûr que ça vient jouer dans la tête des joueurs adverses.
Je pense que oui, tu parles des autres endroits. Il y a un endroit récemment qui a souvent été cité en exemple, c'est Vegas.
C'est vrai, c'est très vrai.
On a dit souvent, bon, ben, jouer à Vegas, c'est pas facile, tout ça. Mais tu sais quoi, Greg? Moi, j'ai couvert la finale. C'était quand? Il y a deux. Écoute, je me mélange dans mes dates. Je pense qu'il y a 2 ans quand les Golden Knights ont gagné.
On fait signe que oui, ici, dans notre département de recherche. Là.
Parfait. Écoute, pardonne-moi, des fois, là, les souvenirs se mélangent des fois.
Mais non, c'est tout à fait correct.
Mais écoute, j'allais te dire, c'est que ce qui est spécial dans plein de places comme ça, oui, le building est fort, les gens sont debout, font du bruit, mais c'est pas du tout comme ici, dans le sens où après le match, je me souviens, là, à Vegas, il n'y a personne. Tu sors autour de l'aréna, il n'y a personne. Les gens sont contents, ont pris leurs affaires, puis ils retournent chez eux. Alors qu'à Montréal, moi, je suis sorti, écoute, peut-être 2h30 après le match, là, vendredi soir, puis il y avait encore des gens qui étaient autour du Centre Bell, puis qui festoyaient, puis qui criaient, puis qui étaient manifestement très, très heureux de leur soirée. Alors, ça aussi, c'est très différent. Je pense que c'est cette passion-là. Oui, il y a d'autres endroits qui sont où les arénas sont très bruyants, mais je ne pense pas qu'il y a cette passion-là des partisans qui s'amassent autour du building, qui font la fête. Qui, avant le match, vendredi, là, Greg, là, j'ai eu peur de ne pas me rendre. J'étais pris dans un bain de foule dehors au Centre Bell. J'ai fait un petit détour pour aller voir un petit peu l'ambiance. Puis je pense que ça m'a pris 45 minutes pour être capable de revenir.
Ah, c'est exceptionnel. Pour avoir vécu les séries à Toronto l'an dernier, je suis allé au match numéro 3 l'an dernier. C'était similaire, mais c'est contrôlé dans un seul environnement, qui est le fameux Maple Leaf Square, celui qu'on appelle également Jurassic Park lorsque c'est les Raptors qui jouent. Mais c'est pas... T'sais, si tu marches trois coins de rue plus loin, tu ne sens plus ça nécessairement. T'sais.
Ouais.
Alors oui, il y a d'autres endroits qui ont ces ambiances-là, mais je l'ai raconté hier également. Je suis allé reconduire Olivier ici au métro, pas trop loin, et à la station de métro. Sur Saint-Denis, ça chantait, ça criait. Ouais. Et on est loin du Centre Bell. On est assez loin, là.
Et je suis convaincu que ça commence à jouer un petit peu ça dans la tête des joueurs des Capitals. Et là, ben, pour le match 4, c'est primordial que le Canadien saisisse cet avantage-là. Comment? Ben évidemment, ça prend un gros départ, ça prend un gros début de match. Idéalement, tu veux inscrire le premier but pour encore plus mettre de pression. Tu sais, la pire chose que tu veux pas, c'est de permettre aux Capitals de contrôler l'environnement, de contrôler le rythme du jeu et de faire en sorte que cette foule-là soit plus tranquille. Donc, le Canadien, Martin Saint-Louis parle souvent du fameux momentum. Là. Hier encore, il en a parlé vraiment beaucoup. Ça fait partie de ça aussi, je pense. C'est tenter de le saisir en partant et d'être capable de miser sur cette énergie-là qui va faire en sorte que, ben, peut-être que ça va faire la différence en bout de ligne parce que honnêtement, t'sais, oui, je sais que les Capitals ont fini la saison avec 20 points de plus que le Canadien, mais depuis le début de cette série-là, c'est très, très, très serré. On l'a vu dans les résultats. Ben, l'autre soir, c'est un résultat un peu plus spectaculaire, mais quand même, là, c'est pas des matchs où il y a quelqu'un qui domine entièrement. Là. C'est pas ça du tout. Alors, tu as besoin de chaque petit avantage.
Ben,
et si à Montréal, la foule te donne cet avantage-là, Greg, ben c'est un gros plus.
Les séries en soi, en ce moment, c'est là qu'on voit la parité dans la Ligue nationale. T'sais, on veut revenir à... Il y a plusieurs, dont moi, là, qui veulent revenir à une formule 1-8, 2-7, 3-6, etc. 4-5, m'a fini, tiens. et quand on regarde les séries actuellement, on se dit, hey, il y a des favoris qui pourraient se rendre à la Coupe Stanley qui vont sortir, mais... Je veux dire, regarde ça, là, même si c'est des séries avec des équipes repêchées, la série Capitals canadien est très, très serrée présentement. Hurricanes, Devils, l'est un petit peu plus que ce que je pensais. En fait, il n'y a pas de séries qui sont d'un seul côté. Tu regardes le Wild contre les... Le Wild pourrait facilement mener cette série-là 3-1 présentement.
Ouais, et même du côté de Toronto, là, c'est... C'est quoi? C'est 3-1 maintenant pour les Leafs?
Oui, c'est 3-1 pour les Leafs. D'ailleurs, on m'a sorti ça dans le département de recherche, le détective Pimento qui a fait son travail. Les Leafs sont une victoire, 12 défaites quand ils sont en position d'éliminer une équipe récemment en séries éliminatoires. Donc, c'est vraiment... C'est quelque chose, comme disait Mario Lemieux. Et écoute, je pense pas que les Leafs vont s'effondrer, mais effectivement, Ottawa ont été déclassés un petit peu plus au premier match, mais après ça, c'est... écoute, c'est très, très serré, là, cette bataille de l'Ontario. Puis regarde en Floride, également, tu sais, toutes les séries, il y en a-tu vraiment une qui a une équipe qui domine l'autre? On aurait pu dire que c'était le cas des Kings, mais là, les Oilers sont tellement revenus dans le dernier match qu'on sait plus.
Et tu vois, cette question-là a été posée récemment. Là, tu parlais du format des séries. Je me souviens qu'on a posé la question à Gary Bettman. Il y a quoi, peut-être? C'était quand? C'était ça, le cadre du tournoi des Quatre Nations? Je me trompe pas, ou en tout cas, il y a quelques mois déjà. Et à chaque fois, en fait, qu'on pose la question à Gary Bettman, parce qu'il y a toujours des gens, dont moi aussi, Greg, en passant, qui milite un petit peu pour un retour à ce format-là, là, le 1-8-2-7. Et Gary Bettman répond toujours la même chose. Ça n'arrivera pas, un, tant que lui va être là, et deux, pourquoi toucher à une formule gagnante? Ce qu'il veut dire par là, c'est que le premier tour est hautement compétitif. Il y a été un temps où le premier tour n'était pas du tout parce que quand tu as 1 contre 8, ben, ça se peut que tu as une grande disparité. Mais Gary Bettman a insisté sur le fait que les premiers tours soient hautement relevés. Puis c'est ce qu'on a présentement. Tu sais, les Capitals, honnêtement, je lisais beaucoup des experts du côté des États-Unis avant le début de cette série-là. Puis beaucoup de gens avec les Capitals en 4. Merci, bonsoir. Ça sera même pas proche. Et c'est pas ça qu'on voit pourtant. Alors, il faut bien dire que, tu sais, des fois, on critique Gary Bettman pour un paquet de raisons, mais quand il parle de l'aspect compétitif du premier tour, ben, je pense qu'il y a 100% raison.
Tu voulais, parlant des Kings, je t'ai mentionné cette organisation-là, mais un assistant DG là-bas qu'on connaît, qui s'appelle Marc Bergevin, qui, selon des récentes rumeurs, pourrait se retrouver dans une autre équipe à titre de directeur général, donc revenir parmi les 32 directeurs généraux, voilà, des formations de la Ligue nationale.
Il y a eu des rumeurs tout récemment, évidemment, du côté des Islanders, avec ce qui s'est passé pour Lula Moriello. Et ça tombe bien, hein, tout ça, parce que le succès du Canadien de Montréal présentement, on ne peut pas le nier. Il y a quand même encore l'empreinte de Marc Bergevin là-dessus. Là, je regardais un petit peu certains des joueurs importants depuis le début de cette série-là face aux Capitals. Puis, écoute, juste rapidement, Josh Anderson, quand cette signature-là a été annoncée, moi, j'étais parmi ceux qui disaient « Ouais, quel mauvais contrat. Joueur déjà en fin de carrière parce que hypothéqué physiquement. » Je me suis posé beaucoup de questions sur cette décision-là. Et tu vois, ça, c'est le genre de décision. Tu sais, ce matin, tu regardes ça et tu te dis, ouais, finalement, Marc Bergevin, il avait peut-être raison sur certains. Il y a eu des hauts et des bas, évidemment. Puis, comme n'importe quel DG, il a pris des mauvaises décisions. Il en a pris des meilleures. Mais les succès du Canadien, présentement, Greg, il y a beaucoup de Marc Bergevin là-dedans. Je pense que ça tombe bien pour lui parce qu'il fait déjà quelques mois qu'on entend parler qu'il prépare, en tout cas qu'il aimerait préparer un retour dans une chaise de DG quelque part. Et bien, ce qui se passe présentement avec le Canadien de Montréal, ça le fait très bien paraître.
Ben effectivement, tu sais, on parle de Josh Anderson, mais en ce moment, tu sais, qui peut vraiment blâmer quelque chose à Christian Dvorak aussi? Et le fameux contrat de Brendan Gallagher, est-ce que c'était pour service rendu qu'on l'a payé? Probablement, mais il rend des fiers services aux Canadiens, puis c'est un vétéran dont tu ne veux pas te départir, Richard, actuellement. Est-ce qu'il est trop payé pour ce qu'il amène? Écoute, on peut mettre ça dans la balance, là, mais quand on regarde plusieurs contrats de vétérans comme ça qui sont là pour épauler des jeunes équipes, est-ce qu'il est vraiment beaucoup trop payé pour beaucoup trop longtemps? Faut se poser la question.
Oui, ben c'est ça. Puis ça aussi, quand c'est arrivé, on a été nombreux à dire que ça n'a pas de bon sens, ce contrat-là. Mais aujourd'hui, on voit bien que... En fait, on voit la raison pour laquelle il a été mis sous contrat pour une longue période de temps. C'est l'inspiration un petit peu que Brendan Gallagher peut apporter au reste du groupe. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'est pas le seul. Je regardais évidemment Samuel Montembeault depuis le début des séries. Puis c'est un gars on se souvient de son histoire, là. C'est un gars qui allait nulle part avec l'organisation des Panthers de la Floride, qui se retrouve au ballottage. Souvent, ces gestes-là, ce sont des gestes anodins. Quand on voit des gars comme ça au ballottage, on dit, bon, le gars s'en vient, puis on verra bien ce qui va arriver. Mais on pense pas qu'un gars au ballottage va avoir un impact comme ce qu'on a vu de Samuel Montembeault cette année. Et puis pourtant, est-ce que le Canadien de Montréal est en train de jouer présentement sans Samuel Montembeault? Probablement pas. Puis il y a beaucoup de gestes comme ça, de décisions comme ça de Marc Bergevin qui ont porté fruit. Malheureusement, Marc Bergevin n'est pas ici pour récolter cette gloire, si on veut. Mais faut pas se méprendre. Les succès du Canadien présentement, ils ont définitivement l'empreinte de Marc Bergevin.
Richard, on te souhaite un très, très bon match ce soir. Amène-toi des bouchons également. Ça risque d'être assez bruyant dans ce building-là et ce sont des moments que nous sommes privilégiés de vivre en tant que membre des médias.
Ben écoute, je parlais avec mes collègues l'autre fois, le match de vendredi soir. Je sais pas si j'ai déjà vu le Centre Bell vibrer de cette manière-là. Je pense que j'ai jamais vu ça, honnêtement. Puis, le Canadien n'a pas eu, évidemment, les grandes équipes. Là, ça, c'était tout au Forum de Montréal, malheureusement. Mais je pense que vendredi soir, ça a probablement été là, le match le plus spécial pour le Canadien de Montréal au Centre Bell. Maintenant, on va voir si celui de ce soir sera encore plus spécial.
Mon petit doigt me dit que, effectivement, ce sera tout aussi... Est-ce que le match sera aussi spécial? Dur à battre, là. Mais ouais. Est-ce que ce sera tout aussi bruyant? Je suis pas mal certain que oui, à tout le moins au début. Merci, mon ami, encore une fois. Passe un beau match et on se reparle la semaine prochaine.
Avec grand plaisir. Salut bien.
Notre ami Richard Labbé, l'excellent Richard Labbé de La Presse.